Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux comme d'habitude pour cette conférence autour du prix Imaginal des collégiens, la sélection des auteurs à la question. Donc je vais vous présenter les auteurs sur lesquels vous avez sans doute déjà travaillé. Karina Rosenfeld à ma gauche pour Zalim. Pauline Pucciano, pardon, pour Titania 3.0, Béatrice Beauté pour Le secret de la dame en rouge et Joanne Elliott pour Le fer au cœur. Donc, vous avez lu déjà sans doute dans les textes, la sélection est très variée puisqu'on a comme décor un monde médiéval avec un démon qui se réveille pour Zalim. Un monde où la société a régressé en termes de technologie avec un envahissement du religieux pour Le fer au cœur chez Joanne Elliott. Et enfin, deux textes qui prennent pour cadre Paris, l'un dans notre 19e siècle pour Béatrice Beauté avec Le secret de la dame en rouge et l'autre au 22e siècle pour Titania 3.0. Un trait qui m'a frappé, en fait, un trait commun à ces trois textes, c'est qu'ils épargnent pas vraiment le lecteur dès le début, parce que dans Zalim, on a une scène de bataille qui ouvre le livre. Le fer au cœur, il y a une amputation d'un des personnages principaux. Le secret de la dame en rouge, c'est la découverte d'un cadavre de dame. Et oui, pour Titania, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais Jean est quand même en souffrance, le personnage principal. Il a perdu sa mère et il se sent vraiment à part dans la société dans laquelle il vit. Alors, je voulais commencer par vous demander, est-ce que la violence, pour vous, c'est vu comme un cadre intéressant de récit ?
Alors moi, pas forcément, non. Mais bon, là, c'est quand même deux royaumes qui sont en guerre. Donc à partir du moment où... Parce que le postulat, c'est que Zalim, le démon, est invoqué comme une arme secrète pour pouvoir gagner la guerre. Donc il faut qu'il y ait une guerre. Et la guerre, malheureusement, ça ne se fait pas sans violence. Donc à partir de ce moment-là, je suis quand même obligée de décrire des scènes de bataille. Après, j'en émaille pas le récit, tout le roman. Hein. Je ne suis pas là pour faire du gore page par page. Mais c'est vrai que de montrer que la guerre, c'est... C'est pas le jeu vidéo, il y a du sang, il y a des morts, il y a de la souffrance, même si c'est juste sur un chapitre, ça me paraissait normal de mettre l'ambiance en disant voilà, le nœud de l'histoire, c'est ce conflit entre ces deux royaumes et c'est ça qui va entraîner l'invocation d'un démon. Donc voilà, donc c'était normal d'en parler à mes yeux en tout cas, mais je suis pas spécialement versée dans la violence en général, j'en mets peu dans mes romans de manière générale.
Les autres auteurs, Pauline Pucciano.
Oui, ça marche. Oui. Pour Titania 3.0, la violence est plutôt sociale. Il s'agit plutôt de l'exclusion et puis de la violence d'une société ultra-libérale où tout s'achète, tout se vend, où les individus sont à la fois très tournés sur eux-mêmes et pas très heureux, et même souhaitant parfois mourir. Donc on a une violence qui est plus psychologique et sociale, qui m'intéressait évidemment, qui était même le cadre obligatoire du récit.
Béatrice Beauté ?
Oui, je ne fais pas exprès de mettre de la violence. Je suis même naturellement assez fleur bleue. Mais il y a des moments où, si on veut donner une tonalité un peu policière à un récit, à un roman, même si c'était une histoire romanesque, il faut démarrer avec du sang, quoi, d'une façon ou d'une autre. Il y avait un auteur de polar, je ne sais plus qui c'était, qui disait « Si vous êtes coincé, au moment où vous écrivez, hein, c'est un problème d'auteur, bien sûr, si vous êtes coincé, faites entrer un personnage surprise avec une arme à la main. » Bon, ben là, c'est un petit peu ça. C'est un élément déclencheur très, très... très pratique à utiliser, une petite dose de violence. Après, il n'y en a pas tellement. Et finalement, évidemment, mes personnages se font extraire le cerveau après avoir été...
Quand même.
Après avoir eu la calotte crânienne détachée. Mais enfin, c'est pas grand-chose. C'est des personnages, une fois qu'ils sont morts, ben, tant pis pour eux. Hein. Mais le reste n'est pas très violent, sincèrement. Hein. Bon, c'est une petite violence pour faire démarrer l'action, on va dire. Voilà.
Joanne Elliott.
Oui, alors, pour ce qui me concerne, c'est le sujet, c'est l'histoire qui a amené cette violence. C'est un livre sombre qui parle des dictatures religieuses, qui parle entre autres du sort des femmes dans ces dictatures. Ça ne pouvait pas être léger, je m'en excuse, mais c'est parce que, quand bien même c'est un récit imaginaire, il est le reflet de la réalité. de ce qu'a été notre réalité, nous, dans nos pays, il n'y a encore pas si longtemps, et de ce qu'est la réalité pour plein de gens, et des femmes en particulier, dans plein d'autres pays dans le monde aujourd'hui. Donc ça commence par des scènes très dures, une scène de torture et d'amputation du personnage masculin, et puis d'une scène de viol par, que subit le personnage féminin. Je n'ai pas pris plaisir à écrire ces scènes, mais je ne m'en suis pas dispensé parce que le contexte particulier de ce livre les appelait. Sinon, par nature, je suis très, très, très peu violent dans la réalité. Et dans la plupart de mes livres, je ne pense pas en abuser, mais celui-ci demandait ces scènes fortes, ces scènes peut-être parfois choquantes, pour bien faire prendre en compte le réel contexte de cet univers.
Et d'ailleurs, ce type de début aussi, est-ce que ça n'induit pas forcément une révolte à venir ? Je me suis posé la question, notamment pour vous, Joanne Elliott, puisque vos deux personnages, ça commence fort pour eux.
Oui, on peut comprendre qu'après ces traumatismes donc, qui arrivent dans les tout premiers chapitres et leur exclusion, ensuite ils sont bannis de la surface de cette société et envoyés dans ces bas-fonds, littéralement dans ces sous-sols. Bien sûr que ça ne peut générer que la volonté de se venger, même si je n'ai pas voulu faire un livre de vengeance. Parce que les destins choisis par les personnages qui subissent toutes ces horreurs, justement, ne sont pas de la vengeance basique, mais une révolte, voilà, au sens sain du mot révolte. Effectivement, ils vont être complètement révoltés, ils vont bien sûr refuser de subir davantage et vouloir et essayer, alors, dans la mesure de leurs moyens, s'engager aussi pour libérer leurs contemporains de ces oppressions. Oui.
Béatrice Beauté, on se demande dans votre texte si la révolte n'a pas déjà eu lieu pour le personnage principal 2 ans avant, Violette.
Bien sûr, la révolte de Violette, c'est pas tant contre les assassins qui extraient le cerveau de certaines personnes, mais contre son père, contre la situation, sociale qui est faite aux filles à la fin du 19e siècle. Ma petite cocotte, tu porteras un corset, et puis tu ne dis rien quand ton père ordonne, et puis on va te fiancer à un homme qui a 30 ou 40 ans de plus que toi, et alors t'es notre fille, tu ne dois faire qu'une chose, c'est nous obéir. Et Violette ne supporte pas la violence de son père. C'est une violence qui m'a semblé pas extraordinaire pour un homme bourgeois, un peu coincé, ouais quand même, un peu coincé. À la fin du 19e siècle, il a d'autres chats à fouetter. Il a une entreprise, il doit la faire tourner, il a une femme qui est dépressive, forcément, avec un mari comme ça. Et la fille, elle se révolte. Elle est au pain et à l'eau une certaine partie de son temps, jusqu'au jour où, elle s'enfuit. Elle ne sait pas qu'elle risque de tomber sur bien pire. Car qui est-ce qui l'attend à la gare à Paris quand elle arrive après avoir fui sa ville natale de Troyes ? Eh bien, vous vous doutez de ce qui l'attend ? Non ? Eh bien, des messieurs qui veulent la mettre sur le trottoir, tout simplement. Et elle ne sait même pas que ça existe. Elle est vraiment d'une totale naïveté. Mais elle a quand même la tête sur les épaules. Elle a du répondant. Elle est tonique. Et puis, elle reçoit de l'aide tout du long. La révolte des filles au fil des siècles a été écrasée méthodiquement par les hommes en général, bien aidée en cela par les structures de la société et de l'Église en particulier. Ça rejoint sans doute...
On en reparlera d'ailleurs.
Oui, mais t'es une fille, pourquoi t'as besoin de savoir lire ? Pourquoi t'as besoin d'indépendance ? Tu seras mariée, point final. T'auras des enfants, ça va bien te consoler de tout le reste. Et le simple fait, j'en ai parlé ce matin à une classe, d'avoir des vêtements... Il n'y a qu'aux filles que la mode a imposé au fil des siècles, des corsets entre les années 1500 et la guerre de 14-18. On ne peut pas respirer, on ne peut pas courir, on s'évanouit pour 3 fois rien. Ah, les filles, ça s'évanouit tout le temps. Ben oui, forcément, si on porte un corset. C'est aux filles qu'on bande les pieds en Chine, pas aux garçons, jamais. Non, les filles, elles sont plus jolies, plus mignonnes, avec la taille fine et les corsets, avec les chaussures pointues des petites chinoises. Et donc, la révolte des filles, soit elle ne peut pas s'exprimer et elle rend les femmes dépressives et malheureuses, soit dans certains cas, on en sort une pour faire une héroïne de roman. Quoi. Parce que elle a su louvoyer pour trouver sa voie et elle a été aidée quand même. Hein. Les éléments extérieurs l'aident beaucoup.
Et justement, elle va commencer à travailler avec Madame Bouteloup, une ancienne voyante qui la prend sous son aile. Madame Bouteloup lui impose des choses, mais elle trouve aussi une part de liberté, Violette, quand même, dans ce qu'elle fait.
Totalement. C'est une situation qui, je dois dire, moi-même, en tant qu'auteur, la situation m'a échappé. Madame Bouteloup, qui va éduquer Violette à utiliser son don. Elle a un don de voyance. Bon, d'accord, ça y est. C'est la donnée de départ. Mais Madame Bouteloup va lui apprendre à mettre en scène ce don, à parler comme ça, à avoir le regard mystérieux, la voix mystérieuse. Elle va l'habiller très, très luxueusement. La voilà, la reine de la belle époque, notre héroïne. Et en même temps, Bouteloup lui prend tout son argent, tout ce qu'elle gagne. Elle gagne beaucoup. Oui, il faut bien que je récupère ce que j'ai misé sur toi. Donc, en fait, d'indépendance financière, elle n'en a pas pendant quasiment tout le livre. Et elle est à la fois esclavagisée par cette femme qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de présence, beaucoup d'autorité sur elle, mais c'est une autorité bienveillante, alors que l'autorité du père est une autorité, comment dire, sans pitié, sans douceur, sans même la douceur que pourrait avoir un père pour sa fille. Non, c'est un outil pour elle, pour lui, elle est un outil. La mère de Violette est bien incapable de prendre la moindre décision et de soutenir sa fille. Donc, d'une part, on a une autorité bienveillante, d'autre part, on a une autorité méchante. C'est vite fait, hein. Violette se rend bien compte qu'elle y trouve son compte dans le deuxième cas.
Et il y a aussi un autre point qui m'a amusée, c'est que dans deux de vos textes, celui de Pauline Pucciano et celui de Béatrice Beauté, la police parisienne recourt au même point, le chantage. Alors, Pauline, bien est-ce sûr. Que vous pouvez nous en parler un petit peu de quel est le chantage qui s'exerce sur l'un de vos personnages ?
Alors, je reviens à mon idée d'ultralibéralisme. Mmh. On est dans une société où il n'y a plus d'État. Il y a eu un événement qui s'appelle la désétatisation. Et ce sont les entreprises privées, en fait, qui gouvernent le monde. Et dans cette perspective, la police, en fait, n'obéit plus à l'intérêt général, mais obéit directement à ses sponsors, qui sont donc des grandes entreprises. La police reste donc une machine à faire des enquêtes, mais qui n'est pas utilisée pour la justice, qui est utilisée pour des intérêts financiers, des lobbies, et qui a recours à des méthodes peu scrupuleuses. Et donc le personnage principal masculin, Jean, va être amené à enquêter, en fait, à faire le mouchard de manière un peu contrainte sur la jeune fille dont il vient de tomber amoureux. Et je voulais juste rebondir, en fait, pour faire un lien avec ce que vient de dire Béatrice Beautet. Dans Titania 3.0, on a une jeune fille qui en fait est aliénée aussi par la société. On la découvre au départ plutôt active dans sa propre aliénation, dans le fait qu'elle s'inflige à elle-même une certaine forme de souffrance. Elle est très superficielle, elle se sent obligée toujours d'être plus belle, d'être parfaite, de se modifier sans arrêt. Et on va comprendre au fur et à mesure du livre qu'en fait elle ne fait que réagir à une violence psychologique, à une violence sociale qui a été exercée sur elle. Donc, ce n'est pas si éloigné que ça de cette thématique.
Et le chantage, alors, Béatrice Beauté ?
Eh bien, le héros, le deuxième personnage important, c'est un journaliste. C'est un journaliste qui a une spécialité, il ne travaille que la nuit. Donc, il va mener ses petites enquêtes sur le monde nocturne de Paris. Ça, moi-même, en tant qu'auteur, ça m'a fasciné d'aller... farfouiller là-dedans. Et bon, il fait le mouchard pour la police aussi. Dénonce-nous, surtout, alors c'est une obsession de la belle époque, dénonce-nous les réunions anarchistes, les réunions de socialistes, les réunions de gauche, parce que c'est des gens qui ne sont pas les amis de la société, en tout cas. Et le chantage, c'est le commissaire met en scène un vol, laissant croire que c'est le héros Florimond qui est le coupable, et il garde ça sous le coude pour le cas où Florimond refuserait de collaborer, disons. Et alors, la punition dans ces cas-là, c'est le bagne. Et le bagne, c'est la Guyane. Et c'est ce qu'on appelle la guillotine sèche à l'époque. Il y a des tas de gens qui ont été condamnés sur des motifs complètement bénins. Un gars qui se réfugie sous une couverture de cheval, vol de la couverture de cheval. Non, je ne l'ai pas volé, je me suis juste mis en dessous parce que je crevais de froid. 4 ans de bagne. Et alors, vous faites 4 ans de bagne, mais vous passez 8 ans en Guyane parce que à vos années de bagne s'ajoute le doublement de relégation sur place. C'était épouvantable. Il y a beaucoup de gens qui en mouraient, beaucoup des bagnards qui en sont morts. Bref, la relégation en Guyane, le bagne, ça lui pend au nez au héros, tant qu'il n'a pas convaincu le commissaire que, bon, que c'est un brave gars et qu'il va l'aider autant qu'il peut. Mais il reste plus ou moins à la solde du commissaire pendant tout le roman.
Dans Zalim, on a une société qui est imaginaire et avec une sorte de guerre un peu absurde entre ces deux pays, Arensdale et Rakeshin. On ne sait pas trop pourquoi ils se battent, mais ils se battent. Ils se battent parce qu'ils se battent. Est-ce que c'était un décor un peu commode pour commencer le texte ou est-ce que c'était un peu une mise en garde aussi que vous vouliez adresser à vos lecteurs ?
C'est toujours un peu des deux. Hein. Bon, déjà, c'était le cadre qui s'y prêtait puisqu'il fallait une excuse pour invoquer le démon puisqu'ensuite... pour moi, l'intérêt de cette histoire, c'est ce que je dis souvent, c'est la métaphore du démon intérieur. C'est est-ce qu'on va céder à ses pulsions noires ou est-ce qu'on va les combattre pour être plus dans la lumière et dans quelque chose de meilleur, en tout cas. Donc, il fallait une excuse pour invoquer le démon, puisque c'est l'arme cachée pour essayer d'anéantir l'armée ennemie. Mais c'est aussi, oui, c'est l'absurdité d'un combat où ça fait tellement de siècles que les deux royaumes s'affrontent qu'ils ne savent même plus pourquoi ils s'affrontent. Et toute la souffrance que ça peut entraîner au niveau de plein de générations qui passent sur le front, qui sont mutilées, qui sont tuées. Voilà, c'est toujours ça. Voilà, aujourd'hui, la guerre, soit on la joue sur les jeux vidéo et c'est facile parce que dès qu'on meurt, on ressuscite pour une nouvelle vie, soit on la voit de très loin... à la télé, donc c'est quelque chose qui peut sembler un petit peu virtuel à nos yeux de Français, un peu à l'abri de tout ça. Donc sans rentrer dans un descriptif précis, parce que c'est pas mon objectif, et je suis pas du tout une spécialisée des armes et de la guerre et du combat et des tactiques, c'est aussi dire, ben voilà, c'est quand j'en parle, c'est moche aussi, hein. Il y a des morts, il y a de la souffrance, et voilà, maintenant, oui, donc c'est un peu des deux, quoi, en fait.
Il y a aussi une part de révolte chez les deux jeunes filles qui sont Kaya et Eliana, les deux princesses. Elles aussi, elles refusent, comme dans les autres textes, le destin un peu facile, se marier hein, pour Eliana, qui est l'héritière du trône. Et vous avez vraiment aussi quatre personnages, je trouve, de femmes qui sont fortes. La reine, donc la mère des deux princesses. Elles sont sœurs adoptives, mais peu importe. Donc Kaya et Eliana, les deux princesses, et la fiancée du roi, Agda. Il faut bien ça, quand même, pour lutter contre un démon et un roi aussi conservateur, non ?
Oui, puis alors moi c'était intéressant aussi, c'est-à-dire que moi j'ai pas voulu rentrer dans la stigmatisation de femmes absolument écrasées par un système, c'est-à-dire qu'elles ont à trouver leur place et on n'est pas dans une société où il faut absolument un fils pour hériter. Le roi et la reine n'ont eu qu'une fille et naturellement elle va devenir la future reine, donc là-dessus on se pose pas la question, hein, c'est comme ça, c'est une femme, c'est pas grave, c'est la fille du roi et de la reine et donc elle va devenir reine elle-même. Mais justement, le personnage du roi est un être faible qui n'a pas été taillé pour ça. C'est sa femme qui était censée être la reine et qui a disparu prématurément. Donc lui, il se retrouve avec ce rôle qui lui échoit malgré lui. Et il n'est pas super doué à ça. Donc on a un roi plutôt faible et quatre personnalités autour de lui plutôt fortes de femmes voilà, libres, pleinement conscientes de leurs valeurs, de ce qu'elles sont capables de réaliser. C'est vrai que Eliana se révolte pas mal contre le conservatisme de son père qui lui par contre a un côté quand même bienveillant, il veut pas écraser sa fille pour l'écraser ou pour être méchant, c'est juste que pour lui c'est ses idées, c'est comme ça, une fille ça doit être comme ça et c'est tout, il est pas fondamentalement mauvais, hein. Il est juste faible quoi, c'est surtout ça. Mais c'est vrai que c'était intéressant d'explorer quatre portraits femmes qui sont finalement assez différentes les unes des autres, de leur créer des liens, que ce soit familiaux, amicaux ou amoureux. Et d'explorer un petit peu leur caractère de battante, chacune à leur façon. Moi, j'ai bien aimé de passer de l'une à l'autre, et c'est des personnages que j'ai vraiment trouvé attachants, chacune à leur manière. Oui.
Pauline Fulciano, dans Titania 3.0, cette jeune fille, en fait, c'est un pseudo, Titania. Et elle a eu d'autres pseudos avant, Médée et notamment Daenerys. C'est des personnages aussi de femmes fortes, de femmes qui revendiquent leur indépendance, non ?
Alors oui, c'est un personnage qui change sans cesse d'identité. Elle ne change pas seulement de nom, elle change aussi de corps et d'apparence. C'est donc à mon sens une femme plutôt fragile parce qu'elle est... elle est faible psychologiquement, elle a un manque à combler, et c'est un peu l'histoire de sa renaissance ou de sa naissance à elle-même au cours des deux tomes. Elle veut au départ emprunter des identités de femme forte avant d'en devenir une vraiment par elle-même. Mais ça va prendre du temps. C'est vraiment initiatique.
Joanne Elliott, votre personnage principal s'appelle Leonardo. Il est très fort pour réparer ou concevoir des machines. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit peu un modèle italien derrière.
Ce ne serait pas impossible. Je vais quand même préciser, enfin, c'était pas, il y a deux personnages principaux, Mayan, l'héroïne, et Leonardo. Hein, voilà, justement, je les ai voulu à égalité d'intervention, je dirais, dans le récit. Bien sûr, oui. En fait, avant même de trouver le sujet, le thème du fer au cœur, je m'étais intéressé, bon, je pense comme beaucoup, c'est pas très original, à la figure du véritable génie, là le mot n'est pas galvaudé, enfin, qu'était Léonard de Vinci. Je m'étais toujours promis qu'un jour ou l'autre, il réapparaîtrait, voilà, mais je ne sais pas comment, dans un de mes livres. Et voilà, et quand j'ai commencé à construire cet univers, je me suis dit, bon, pour quelles raisons des fanatiques religieux voudraient-ils imposer leur loi ? Par définition, ils sont opposés à toute forme de progrès, donc à la construction de machines. Donc, oui, entrez. voilà, et c'était pour moi l'occasion idéale de faire réintervenir. Alors, ce n'est pas le vrai Léonard, mais enfin, c'est un jeune Leonardo qui lui ressemble. Voilà. On est dans un monde alternatif, mais enfin, voilà, c'est le Léonard d'un univers parallèle, oui.
Et il y a aussi une citation à l'entrée de la ville basse. Vous qui entrez, abandonnez toute espérance. Donc oui, là aussi, on est vraiment sur...
Un petit clin. L'ambiance générale aussi du roman voilà, va du côté de l'Italie, de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge. Voilà. Même si on découvre que... voilà, on croit que ce monde est resté plusieurs siècles en arrière, mais c'est la faute de ces religieux qui refusent tout progrès. La cité s'appelle Perenia, pérenne, rien ne doit bouger. Mais en fait, on découvre vers la fin, il y a des indices qui montrent que le monde à l'extérieur, lui, est un peu plus en avance que ça. Voilà. Mais effectivement, tous ces indices ont été semés pour nous faire penser à une époque reculée. Oui.
Béatrice Botté, votre duo de jumeaux maléfiques, qui sont à l'origine donc des meurtres de femmes, est-ce qu'ils illustrent la parole de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » ?
Non, je crois surtout que ce sont deux crétins finis. C'est un thème qui court dans la littérature de la fin du 19e, celui du savant fou, qui fait des expériences complètement aléatoires et dangereuse et puis qui obtient quelquefois des résultats. Et là, ces deux frères jumeaux qui ont fait des études scientifiques, c'est sûr, qui possèdent un laboratoire, c'est sûr aussi, essayent de percer les secrets de l'avenir. Et pour eux, c'est libéral, comme tu le disais tout à l'heure. Ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et s'il y a la guerre, il y aura de l'argent parce qu'ils vendront des armes, ils trouveront... La guerre fait gagner beaucoup d'argent aux gens qui n'ont pas beaucoup de conscience. Ce sont deux hommes qui n'ont pas d'autre conscience que celle de mener à bout une expérience complètement crétine. Mais je ne peux pas le dire là, parce que sinon, ça dévoilerait quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais ils ne sont rien, dans mon esprit, en tout cas quand je l'ai écrit... C'est des marionnettes inconsistantes et malfaisantes aussi. Violette est entourée de gens malfaisants qui essayent de profiter d'elle et ces deux frères-là en font partie. Heureusement, des gens qui auraient voulu profiter d'elle s'humanisent progressivement. Je n'ai pas fait exprès pour Madame Bouteloup et pour Ernest qui me semblaient au départ des personnages vraiment à profiter de la situation tant qu'ils pouvaient. Il vient, malgré moi, hein, vraiment le travail de l'auteur est très, très bizarre parce qu'on se fait balader par ces personnages et ils finissent par devenir beaucoup plus humains. Mais au départ, ils ne le sont pas. Le père n'est pas très humain, les deux jumeaux ne le sont pas non plus. Heureusement, il y a Florimond, mais enfin bon, heureusement, il est là. C'est le héros masculin, quoi. Il en faut un pour former le couple. Dans tous mes livres, je n'ai pas pu faire autrement. Il y a un couple qui se forme, toujours. Mais dans la plupart des romans, je pense pour toi, pour toi, pour toi. tout le monde. Bon, voilà, un couple se forme et il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour aider l'héroïne, quoi. Elle se débrouille très bien toute seule, mais une petite aide supplémentaire, un petit peu d'amour par là-dessus, ça passe très bien, oui.
J'avais une petite question pour la salle. Dans Titania 3.0, on peut changer d'apparence à volonté. J'aurais juste voulu voir des têtes qui me disent oui ou non. Est-ce que vous, ça vous intéresserait de pouvoir changer comme ça à volonté d'apparence ? D'accord. Et vous seriez prêt à vivre dans cette société alors du coup ? Où on ne vous donne plus le droit de grève, où voilà, vous n'avez pas de retraite, et la police ne s'occupe que des gens riches.
C'est aujourd'hui ça, c'est Macron.
C'est bien, c'est... Non, non, c'est marrant. Voilà, j'avais une petite expérience à faire. Pauline Pucciano, je me demandais un petit peu comment vous aviez, pourquoi vous aviez voulu créer justement ce monde avec cette dichotomie quand même, ce consumérisme à tout craint et cette absence de démocratie qui porte peut-être pas vraiment de nom, mais en même temps, on est quand même là-dedans. Et comment un peu vous vous étiez projeté ou comment vous aviez fait des recherches par rapport à ça ?
Alors, comme le faisait remarquer... Joanne Elliott, il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup de recherches. Le consumérisme, il est là et bien là, et je n'ai fait que forcer un tout petit peu le trait d'un ultralibéralisme qui autorise de plus en plus de choses au nom du profit, de la perte de l'idée même de l'intérêt général, et puis d'un individualisme qui est un mirage de liberté, qui fait croire aux individus qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui sont maîtres de leur apparence, maîtres de leur personnalité, qui en fait les enferme dans quelque chose de très mortifère. Donc voilà, ce fameux contrat spécial que signe Titania et qui en fait qui pousse sa transformation jusqu'à la mort, ça n'est que forcer le trait de ce que je crois voir déjà aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment fait de recherche plus que ça.
Et est-ce que vous avez tous, est-ce que vous aviez tous un message à faire passer justement à vos jeunes lecteurs par rapport à des dangers qu'on peut courir dans des sociétés très différentes comme le sont celles que vous décrivez ?
Pour ce livre-là, je dirais clairement oui. D'habitude, je me méfie des messages. Je n'ai pas l'habitude de défiler qu'une pancarte dans mes livres, du moins. Mais là, non, clairement, c'est parti d'une vraie révolte personnelle, une totale indignation contre, entre autres, le sort fait aux femmes. Enfin, par la plupart des fanatiques religieux. Enfin, et encore, je mets fanatique pour être poli, mais par la plupart des religieux. Donc vraiment, là, oui, il y avait une volonté d'enfoncer le clou et de porter ce message, oui.
D'ailleurs, il y a une phrase très, très forte qui est dans votre texte que j'ai relevé. Une justice peu favorable aux humbles, encore moins aux femmes. Une justice faite pour les maîtres, les maris et tous ceux que la naissance avait dotés d'un surplus de viande entre les jambes, à l'origine des malheurs du monde. Alors, on est dans une société imaginaire, Joanne Elliott, mais à quel point est-elle imaginaire ?
Voilà, mais comme... de toute façon, nos livres, enfin, la plupart du temps, nos livres d'imaginaire sont que le décalque de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, ou de ce qui a été dans le passé pour nous, de ce qui est encore, pour hélas encore beaucoup trop de gens. Et là, celui-ci plus que tous les autres, effectivement. Il n'y a hélas pas besoin de faire beaucoup d'efforts d'imagination pour avoir ces ingrédients-là. Je préférerais que ce soit que de l'imagination, mais non.
Les autres, est-ce que vous voulez réagir ?
Moi, j'ai toujours envie de dire aux filles, soyez vigilantes. On a bien amélioré la situation des femmes depuis une cinquantaine d'années. C'est presque gagné, mais pas tout à fait. Et dès qu'il y a une perte de vigilance, toc, on va redescendre bien vite. Alors, je dis ça pour les garçons aussi, parce que vous pouvez aider... vraiment une égalité des sexes qui n'existe que dans les sociétés occidentales et encore. Donc, ne baissez jamais votre garde, les filles. Sinon, vous allez vous retrouver comme au 19e siècle, comme à la Renaissance, comme à d'autres époques, comme chez les Romaines ou les Grecs. Allez, hop, t'es l'éternel inférieur, t'as même pas besoin d'apprendre à lire. Une fille qui a les reins solides, qui a la tête bien faite, elle se sort de ça. Comme Violette, comme d'autres de mes héroïnes. Bon, ça se passe au 19e siècle, ça aurait pu se passer à d'autres époques. À notre époque, moins, mais on sent... Comment dire ? Quand on est sensibilisé à ça, on sent des prémices un petit peu partout. Et c'est pas joyeux, je trouve.
Alors, pour Titania 3.0, je suis pas sûre qu'il y ait un message vraiment clair, mais il y a une invitation à réfléchir sur, certainement sur les nouvelles technologies, sur leur féerie, sur leur magie, qui apporte à la fois beaucoup de beauté dans l'existence, qui est un vecteur de création, de créativité, d'évasion, etc., mais qui est aussi un vecteur d'individualisme, de perte de sens de la société. Et toutes ces féeries sont parfois très commerciales et toutes ces séductions sont parfois très trompeuses et porteuses de mort, en fait. Voilà, c'est vraiment sur ça, je pense, que le roman s'ouvre.
Carina.
Oui, moi non plus, j'essaye pas de faire passer un message à proprement parler. Hein. En plus, on est dans un univers de fantasy complètement imaginaire, donc les questions sociales de notre société, pour les calquer là, sur ce coup-là, ça a été un peu plus compliqué. Je l'ai fait dans d'autres romans, où j'ai soulevé quelques questions, en particulier dans La Symphonie des Abysses, mais là, en l'occurrence, c'est quand même très très dans l'imaginaire. Tout à l'heure, je disais que c'était la métaphore du démon intérieur, parce que ça, c'est peut-être la chose sous-jacente, ces pulsions qu'on a tous, hein, qui peuvent nous entraîner, comme je dis, du côté sombre de la force. L'humain, c'est le côté moral qui nous retient de sombrer dans ces pulsions et de se dire, est-ce que je les écoute, est-ce que je me laisse aller à mes pulsions destructrices ou même autodestructrices, destructrices de l'autre, ou alors est-ce que je les combats pour être civilisé, moralement bien, etc. Donc c'est pour ça que c'est cette question qui... Alors là, en l'occurrence... Il y a un démon pour de vrai à l'intérieur de quelqu'un. Et dans le tome 2 en particulier, ce combat est d'autant plus clair puisque dans le tome 1, il s'agit de découvrir un petit peu plus l'identité de la personne qui a hérité du démon. Mais à la fin du tome 1, on le sait. Donc le mystère étant passé, tout le tome 2, c'est dompter le démon intérieur et de réussir peut-être... Est-ce que l'humain va être plus fort que le démon qui est en lui ? Donc voilà, c'est une... Peut-être un petit filigrane de message, mais maintenant, c'est vrai que là, on est purement dans l'imaginaire et donc, j'ai pas forcément essayé de faire passer 3000 messages dans ce roman-là en particulier.
Et vous évoquez un tome 2. Est-ce que l'histoire est complète en deux tomes ou est-ce qu'il y aura encore un tome 3 ?
Non, non, l'histoire est finie. Le tome 2 est sorti au mois de novembre, là, et donc, on a terminé. C'est bon. On a toute l'histoire au complet.
Je voulais poser aussi du coup la question pour Titania 3.0.
Et ce sera la même réponse. C'est fini, c'est un diptyque.
Les deux autres textes sont des one-shot, me semble-t-il ?
Non. Il y a le deuxième. Le deuxième tome de La Dame en Rouge s'appelle La Dame en Rouge règle ses comptes. Et elle en a des comptes à régler. À la fin du tome 2, ça y est, c'est fini. Si je veux faire passer un message encore, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors la tarte à la crème du jour, c'est l'amour sauve de tout. C'est l'amour qui va sortir les personnages d'une situation pas toujours facile, quoi. S'ils sont deux, ils sont amoureux. Voilà.
C'est vrai que ça aide. et pour ma part...
Je tiens à le dire, il n'y a pas que du malheur dans la vie.
Voilà. Faut pas croire, après tout ce qu'on vient quand même de vous raconter, voilà, qu'on voit les choses en noir et que... Et qu'on est absolument pessimiste. Ouais. Et pour ma part, voilà, c'est un volume unique en revanche. Voilà, ça se termine très bon.
Et justement, vous en parliez, Joanne Elliott, votre histoire est racontée par les deux points de vue, masculin et féminin. C'était vraiment pour aussi que vos jeunes lecteurs puissent avoir les deux côtés de l'histoire et plus d'empathie peut-être pour l'autre sexe.
Oui, et puis surtout, voilà, je voulais pas, enfin, je voulais qu'il reste à égalité. Voilà, je voulais pas que l'un dans la narration, que l'un l'emporte sur l'autre, enfin, ou l'une, voilà, c'est... Et on... Bon, enfin, voilà, non, c'est tout ce que j'ai à dire pour ça, non, c'est vraiment ce choix, je n'ai pas voulu choisir, voilà. D'habitude, quand je construis un roman, une des premières questions que je me pose, c'est, voilà, c'est qui va raconter, et puis des choix s'opèrent, un héros ou une héroïne sort du lot, et c'est lui qu'on va suivre. Là, vraiment, ça, je me suis refusé dès le début, je l'ai laissé à part complètement égal, voilà.
Que représente pour vous la sélection dans un prix de lecteur ?
Oh ben c'est toujours une joie de savoir. Quand un livre se fait remarquer, voilà, c'est quelque part c'est une manière de dire qu'on n'a pas travaillé pour rien. Bon, on ne travaille jamais pour rien, on s'est exagéré de dire ça, mais enfin voilà, quelqu'un a un comité de sélection. Enfin après, ça varie selon les prix, mais des personnes, après j'imagine moult discussions très vives et autres, enfin, se sont arrêtés sur un choix de 4 titres, alors, parmi plusieurs dizaines au départ. Donc c'est toujours une petite fierté, enfin, pour ce qui me concerne, de se dire qu'on est arrivé jusque-là quand même.
Oui, pareil, une grande joie. L'idée d'un petit coup de plumeau sur notre narcissisme, hein, c'est ça. C'est très très plaisant. Je suis dans les finalistes. Peut-être que j'aurais le prix. Bon, ben non. Mais enfin, quand même, être dans les finalistes des Imaginales, c'est pas rien. J'aime autant vous dire que je me rengorge de plaisir.
Oui, et puis le fait que ce soit un prix de lecteur, c'est aussi l'assurance que le texte va être lu. Et va être lu ici par son public, la jeunesse. Et enfin, ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est vraiment super. Et d'ailleurs, ça se confirme avec les rencontres avec les élèves. C'est vraiment très très agréable de savoir qu'on est lu.
Oui, je pense que moi, y a peut-être des gens qui étaient là ce matin avec la rencontre avec moi dans l'autre. Je ne sais pas, parmi les élèves ici, parce que ça se croise dans tous les sens. J'expliquais qu'en tout cas, pour ma part, et je sais qu'en discutant avec beaucoup d'autres auteurs, on est tout le temps en train de douter sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on a raison? Est-ce que cette histoire, elle vaut la peine d'être racontée? Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Est-ce que je la raconte bien? Est-ce que je la raconte comme il faut? Est-ce que mon idée, elle est valable? Et finalement, de faire partie d'une sélection, c'est une espèce de validité, de se dire, mais oui, oui, ton histoire, tu as bien fait de la raconter, elle nous intéresse, elle nous a plu. Et ça fait toujours du bien de remettre un peu les pendules à l'heure parce qu'on est tout seul devant notre texte. Moi, on me demande souvent si j'écris mes romans toute seule. Je leur dis, bah oui, mon idée, elle est dans ma tête. Donc, il n'y a personne qui peut venir s'asseoir à côté de moi en disant, bah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. C'est un travail qui est, mine de rien, assez solitaire. On est tout seul avec notre histoire, nos personnages. Et on se remet en question tout le temps en train de se dire, bah, est-ce que je fais bonne route? Est-ce que j'ai raison? Et d'un seul coup, ça y est, ça s'ouvre à des tas de personnes. Et cette sélection, ça nous permet de nous dire... Continue comme ça, doute moins, peut-être arrête de te prendre la tête un petit peu parce que tu vois ce que tu fais, ça vaut la peine, c'est arrivé jusque-là. Et je pense que c'est vraiment important pour reprendre une bonne bouffée de force, de motivation pour dire ok, ben là je rentre à la maison et je me mets sur le prochain et on est regonflé à bloc. Et ça, je pense que c'est essentiel dans la vie d'un auteur d'avoir cette petite reconnaissance de façon régulière.
Je voulais vous demander, public, si vous aviez quelques questions que vous vouliez poser à nos auteurs, comme je sais que vous avez sans doute lu ou un peu travaillé sur les textes. Tout le monde est endormi ou pas de questions? Alors moi j'avais envie de demander, Joanne Elliott en a un petit peu parlé, mais de savoir vraiment qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce texte. Pourquoi vous avez eu envie à ce moment dans votre carrière ou en début de carrière de commencer par cette histoire-là, par cet univers-là et par ces personnages-là?
Pourquoi j'ai voulu écrire Zalim? Oh là, c'est un mélange de tellement de choses différentes. C'est pas un truc précis qui me dit tiens, je vais écrire ça. Il y a eu un mélange de plein de choses. Bon, le thème du démon, ça m'a été soufflé par des épisodes de Naruto que je regardais avec mon fils quand il était petit, parce que Naruto a un démon, c'est le démon renard à 9 queues qui est enfermé à l'intérieur de lui, sous clé. Et il y a une espèce de formule magique qui est censée le libérer. Et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai fait un peu de recherche et j'ai découvert qu'en fait le démon renard est une figure de la mythologie japonaise assez importante, donc, qui a été réutilisée dans Naruto mais qui existe. Et de là, je me suis dit, mais voilà, pourquoi est-ce que cette idée du démon m'attire? Pourquoi j'ai envie d'écrire une histoire du démon? Donc je suis partie un peu de tout ça et puis ensuite j'ai fait un voyage en Norvège où je suis complètement tombée amoureuse du pays, les paysages, l'ambiance, la nature, voilà quoi. Et donc même si Arendsdal c'est un pays complètement imaginaire dans son nom, dans son organisation et tout ça, tous les paysages c'est typiquement du paysage norvégien. Et donc je suis même allée plus loin, les prénoms de mes personnages pour la plupart d'entre eux ce sont des prénoms nordiques, j'utilise du vocabulaire de temps en temps, en particulier dans le tome 2, d'éléments vraiment typiquement que je suis allée chercher dans le vocabulaire nordique. Donc c'est plein de choses qui se mélangent comme ça. Et puis c'est vrai que j'ai pas écrit de fantasy pure comme ça jusqu'ici et j'avais peut-être envie aussi de tenter cette expérience, de me dire bah tiens, j'ai fait de la science-fiction, j'ai fait de l'anticipation, j'ai fait du fantastique, bah là pourquoi pas partir dans un univers de fantasy pure avec un démon, avec quelque chose de complètement imaginaire. Et c'était l'occasion de me lancer dans cette aventure et de voir où ça allait me mener. Donc justement, comme tu dis, j'étais pleine de doutes, de questions, en me disant, mais si ça se trouve, je suis nullissime en fantasy et ça ne va pas du tout fonctionner. Donc c'est toujours rassurant de voir que finalement, je ne me suis pas trop plantée au final.
Et les autres ?
Moi, je crois que c'est vraiment le thème en fait, de l'identité qui m'a intéressée au départ. Je trouve que les questions autour de l'identité hantent le débat politique en ce moment. Je trouve que c'est une question vraiment d'actualité, brûlante, que les gens ont un malaise au niveau de leur identité. Et je voulais faire un personnage qui soit emblématique de ça. Et l'anticipation, évidemment, s'est imposée parce que imaginer un moyen de changer d'identité, de se transformer, de changer d'âge, de sexe, de tout ce qu'on veut, ça ne peut se passer que dans un roman d'anticipation. Et donc, c'est le thème, en fait, qui a déterminé l'univers.
Alors, j'avais fait une série chez Casterman qui s'appelle Penelope Green et qui utilisait des personnages un petit peu semblables. Penelope est journaliste à Londres à la fin du 19e siècle et elle est aidée par un assistant qui est un petit gars bien courageux et malin et amoureux d'elle. Et puis la série s'est arrêtée un peu brusquement pour moi. Dans cette série, l'héroïne journaliste fait un tour du monde. Elle fait une enquête en Angleterre, une autre en Amérique, une autre en Chine et une autre en Égypte. On était sur 4 continents et je voulais faire un 5e qui se passerait à Paris. Et puis, pour telle ou telle raison, la série n'a pas continué. Il n'y a que 4 tomes de Pénélope. Mais j'ai un petit peu récupéré les personnages. Enfin, c'est des personnages qui ressemblent beaucoup. Et ça se passait dans le Paris 1900, que je trouve fascinant. C'est vrai qu'on appelle ça la Belle Époque. Ça prépare la guerre de 14. Ça prépare les attentats anarchistes. Tout n'est pas rose pour tout le monde. Mais enfin, quand même, on a une impression de légèreté, de façon de prendre la vie du bon côté, qui était assez agréable à mettre en scène, je trouve. Donc, avec toutes les difficultés qui sont en parallèle, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, c'est parti un petit peu de là aussi, surtout. Cette envie de faire une histoire qui se passerait à Paris à la fin du 19e siècle. Et puis, comme il y a toujours un petit peu presque toujours, du fantastique dans mon travail, que ce soit des fantômes par-ci, des grimoires par-là, des sortilèges, des trucs, des machins, bon, ben là, c'était de la voyance. Qu'on y croit ou pas, qu'importe. Est-ce que c'est utile de savoir l'avenir ? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, on peut avoir de la curiosité à ça. Comment va se dérouler mon avenir ? Bon, ben, si vous le demandez, je suis à votre disposition, dit Violette, qui elle-même ne veut pas déceler quel sera son propre futur. C'est normal, hein, La tradition raconte que jamais un voyant ne peut voir sa propre histoire. Mais elle voit l'histoire des autres. Bon, voilà. Elle répond à la demande aussi. C'est une demande très 19e siècle. Il y a des devins à tous les coins de rue. Et des fantômes aussi, des tourneurs de table et tout ça. On veut savoir son avenir. Et comme s'ils n'avaient rien vu venir, ben, la guerre de 14 n'est pas loin. Enfin bref, voilà. Donc mon idée d'écrire se nourrit un petit peu de tout ça. Je ne maîtrise rien quand je commence à bâtir un roman. J'ai une idée de décor le plus souvent, de personnage. Et puis je commence à écrire et puis je vois où ça va mener mes personnages. Je ne fais pas de plan. Des fois, je suis coincée, c'est vrai. Je retourne un peu en arrière. Mais c'est vraiment les personnages qui mènent la danse. Et plusieurs fois, j'avais l'intention de leur faire faire ceci. Et eux, ils ne veulent pas. Ils font autrement. Et à chaque fois que ça dévie, j'arrive pas à corriger. Donc maintenant, je laisse faire. C'est les personnages qui mènent la danse, vraiment.
Alors, la question, c'était sur l'origine. Oui, ce livre-là est vraiment né de mon inquiétude. Voilà, quand il m'arrive encore parfois de regarder les informations à télé, de moins en moins en fait. Voilà, je vois un retour de l'emprise du religieux, quelle que soit la forme qu'il prend. Voilà, et ça, tout ça m'inquiète, voilà, pour le dire de façon modérée. Et voilà, je voulais exprimer ça. C'est rappeler qu'on est au cœur d'un pays laïque avec des vrais principes que, hélas, certains, parmi nos responsables, abandonnent, je trouve, mais donc un peu trop facilement.
Et Joanne Elliott, dans votre texte, il y a un peu votre marque de fabrique aussi, qui est le steampunk, on va dire, avec une armure, avec un gantelet articulé. Ça c'est votre truc quand même.
Ah, je dirais voilà, là c'est le petit tic d'écriture. Enfin oui, c'est rare que j'écrive un livre sans que des machines un petit peu bizarres à vapeur. Alors là, mais oui, c'est cohérent aussi. Léonard, à mon avis, aurait très bien pu, le vrai Léonard aurait très bien pu anticiper là-haut la machine à vapeur et puis animer des choses, des automates, et pourquoi pas donc une armure, surtout pour permettre à une héroïne de remarcher, parce qu'il le fait porté par ce but-là, voilà, effectivement, donc... Voilà, oui.
Et est-ce que vous avez fait du coup des recherches un peu historiques sur le personnage ou...
J'avoue, légère. Je ne me suis pas autant plongé dans la documentation que je peux le faire parfois sur d'autres livres. J'ai vraiment laissé l'imaginaire prendre le dessus. Mais enfin voilà, je suis quand même allé. J'ai consulté, ça me revient à présent, un hors-série de magazine historique qui était consacré à Léonard de Vinci, voilà, et qui reproduisait la plupart de ses carnets, de ses croquis, etc. Voilà. Mais je suis pas allé vraiment plus loin que ça. C'est mon interprétation de Léonard dans ce contexte particulier.
Et vous, Béatrice Beauté, pour toute la partie justement sur le 19e siècle, vous avez fait des recherches historiques de quelle nature alors du coup?
De la lecture surtout. Et je recroise avec Internet beaucoup. J'ai l'impression d'avoir une bibliothèque pleine de documentation. Donc, c'est sûr que mon 19e siècle, il est un peu positif, moins noir que ce qui... C'est pas du Zola, quoi. On est bien d'accord là-dessus. C'est pas du Zola. J'essaye de voir... Peut-être pas optimiste, c'est pas le mot, mais plutôt plus légère, quand même. Hein. C'est un roman romanesque, c'est de l'amour dont il est question. Donc... Oui, je me documente... Je sais pas, par mes lectures. J'ai des dizaines d'années de lecture derrière moi, et j'oublie rien. J'ai de la chance, j'ai une bonne mémoire pour certains trucs. Et j'aime bien me pencher sur l'histoire des costumes, de l'alimentation, tous ces trucs-là. Je passe beaucoup de temps avec ça, des chansons, des loisirs. Quels sont les loisirs qui sont pratiqués ou pas, par quel type de société, etc. Et donc, c'est pas de l'histoire historique. Oui, si, je sais qu'à l'époque, c'est je sais plus quel président, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est plus important de savoir que la Tour Eiffel va peut-être être démolie, parce que... Bon, ça a été fait pour l'exposition universelle. Maintenant, ça y est, débarrassons-nous de cette horreur. On la démolit ou pas? Ben, on verra dans le deuxième tome. Le cinéma commence, le cinéma des frères Lumière. Alors, quand le héros veut emmener sa petite copine, elle dit non, mais attends, arrête, il n'y a pas de parole, ça ne vaut même pas le théâtre quand même. Et puis finalement, la deuxième héroïne, elle accepte de grand cœur, et etc. Donc, c'est plutôt des petits faits de société que j'essaye de mettre en scène pour donner une vision... peut-être pas exact, mais vraisemblable en tout cas, de l'époque. Vraisemblable, voilà, c'est ça mon maître mot quand j'écris des romans historiques. Voilà.
Il y a une question dans le public? Oui, alors très fort par contre, s'il vous plaît. Oui.
Comment je fais pour mettre un monde complètement imaginaire ? En place, je laisse parler mon imagination. Voilà. Ce qui est bien quand on part dans quelque chose de complètement imaginaire, c'est qu'on n'a pas de limites ou pas de références. On les crée nous-mêmes, nos références. Donc en fait, l'idée, c'est de se laisser porter. Voilà. Moi aussi, je me laisse porter par mon histoire et mes personnages. Je fais pas de plan, je prends pas de notes. Je me mets à écrire et puis ça, voilà. On écrit et ça part. Donc là, en l'occurrence, j'ai toute la liberté possible. Hein. Mon univers est imaginaire, mes personnages... finalement sont dans une société qui est créée de toutes pièces, donc je peux l'inventer comme je veux, j'ai pas de contraintes, hein. Donc il suffit juste, comme je dis souvent, d'ouvrir la porte dans la tête et puis fiouf, de laisser les choses sortir. Et là c'était voilà, là c'est vrai que pour le cadre, comme je parlais de la Norvège tout à l'heure, je me suis vraiment inspirée des paysages, donc j'avais mon album photo, j'avais pris 800 photos quand j'étais en Norvège, donc je faisais défiler les photos sur mon ordinateur pour être capable de saisir les couleurs, les ambiances, etc. Mais à part ça, voilà, on se laisse porter et on part dans quelque chose qui... Voilà. Et après, le tout par contre, ce qui est certain, c'est que même si ça reste complètement imaginaire et qu'on se crée nos propres contraintes et nos propres conditions, il faut que ça reste cohérent. C'est-à-dire que si on décide qu'un personnage est comme ça ou que le royaume fonctionne comme ça, ça reste comme ça. Ça ne va pas partir sur une page, c'est comme ça, et la page d'après, c'est autrement. C'est-à-dire qu'on se fixe quand même des règles de fonctionnement dans ce monde, et il faut qu'on s'y tienne de A à Z pour que ça reste cohérent tout du long de l'histoire. Donc on se crée notre propre univers, mais il faut qu'il soit logique et qu'on ne perde pas le lecteur qui dit « Attends, mais je ne comprends pas, parce que dans le chapitre temps, c'était ça, mais alors là, maintenant, c'est plus ça. » Non, il faut qu'il y ait quand même cet environnement qui reste logique et stable tout le long du roman, même si c'est dans l'imaginaire.
Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'après, il y a une autre conférence, comme vous le savez, bien sûr. Vous pouvez donc retrouver les auteurs sous la bulle du livre et je vous remercie, ainsi que bien sûr.